Interview.
R du Bois pour l'interview, émission que vous écoutez sur les ondes FM en 107.5 et sur le 101.7 à Lucandiois. L'émission est aussi mise en podcast sur le site internet www.rdwa.fr. Au studio, aujourd'hui, nous sommes en compagnie de M. Dominique Joubert. Bonjour.
Bonjour à tous les Diois.
Dominique Joubert, vous êtes ici en tant qu'adjoint à la participation, à la communication et l'inclusion au sein de la ville de Die. Et donc, vous êtes ici pour nous présenter un lancement. Il s'agit, organisé par la mairie, d'un budget participatif citoyen. Donc, c'est une proposition qui va se dérouler sur les premiers mois de 2023, si je comprends bien.
Alors, elle démarre effectivement ce mois de janvier avec un aboutissement au mois de juin et, on l'espère, l'élection de plusieurs projets proposés par les habitants. Et la deuxième partie de l'année, ça sera la mise en œuvre de ces projets.
Alors, on peut peut-être aussi expliquer ce qu'est ce budget participatif citoyen. À qui s'adresse-t-il? On peut imaginer à toute la population.
Oui, oui, bonne imagination, tout à fait, aux plus de 12 ans. Donc, il faudra bien sûr l'accord des parents. Alors, le budget participatif, il est né à Porto Alegre en 89. L'idée est d'attribuer une partie du budget d'investissement de la commune au vote citoyen. Donc le cheminement est assez simple. Un groupe d'habitants, quelques habitants, proposent un projet d'intérêt public sur l'espace public. On passera au tamis de la faisabilité technique et puis aussi de l'aspect réglementaire. En ces temps de transition, nous on souhaite plutôt que ça tende vers le vivre ensemble, le bien vivre ensemble et l'aspect transition économique, énergétique, écologique. Bon, une fois qu'il a passé ces deux tamis sans trop de soucis, il sera mis en ligne, il sera valorisé sur des panneaux d'affichage, etc., etc. Donc il y aura une vraie campagne. Et puis il sera soumis au vote des citoyens, donc des habitants, soit directement en ligne, soit par papier à l'accueil de la mairie.
Vous citiez donc cet exemple de Porto Alegre en 1989. Dans quel contexte s'était-il établi? Je ne sais pas si vous pouvez répondre à cette question. Et qu'est-ce que ça a amené justement par la suite pour la population?
Alors à Porto Alegre, j'y étais pas, j'étais jeune à l'époque et mes enfants naissaient juste cette année-là. Donc l'idée vraiment, c'était de reprendre un pouvoir. Alors à Porto Alegre, bien sûr, de reprendre un pouvoir pour et par le citoyen. Il y avait une perte de confiance, il y avait une vraie fraude à cette époque-là, il y avait vraiment aucune confiance dans les représentants, hein, dans cette démocratie représentative. Il y avait un souffle de liberté et donc s'est installé tranquillement, sans violence, ce budget participatif. Alors je vous dirais une bêtise sur le pourcentage, mais c'était plusieurs dizaines de pourcents du budget de Porto Alegre qui a été soumis au vote, au conseil, aux suggestions. Et ça a essaimé, puisqu'aujourd'hui, toutes ou quasi toutes les communes ont un budget participatif, alors qu'ils fonctionnent de diverses manières, qui ont des objectifs différents. Mais c'est quelque chose qui rentrait un petit peu dans les mœurs démocratiques.
Cette proposition a-t-elle été déjà effectuée en France aussi?
Oui, bien sûr.
Et
oui.
Justement, on peut peut-être amener ces exemples sur les aboutissements aussi que ça a pu produire.
Alors, très près de chez nous, il y a Cray, qui, si ma mémoire est bonne, est à son cinquième budget participatif.
On connaît son taux de financement à la ville de Cray, vous savez?
Alors, ce que je peux vous dire, c'est que nous, on s'est inscrit dans la moyenne. Quand on s'est posé la question de quelle somme on allait mettre à disposition de ce budget participatif, ben, on a fait une petite recherche Internet. La moyenne est de 6 euros par habitant. Donc nous, on a attribué 30 000 euros, qui correspond à 6 euros par habitant. Alors à Cray, je crois qu'ils sont légèrement au-dessus. Je vais vous dire une bêtise, donc je ne vous dirai pas la somme. On a des communes comme Firminy dans la Loire qui étaient à 22 euros. Et puis on a Carpentras qui, elle, met une somme énorme parce que je crois que c'est 240 000 ou 250 000 euros qui sont dégagés. Alors après, il faut rentrer dans les détails, il faut aller voir les projets qui sont portés. On s'aperçoit par exemple qu'à Carpentras, il y a des projets qui sont portés par la mairie directement, puisqu'on n'est pas tout à fait autiste quand même. Donc les cheminements piétons, par exemple, qui passent par le budget participatif à Carpentras, nous, sont portés directement avec le travail qu'on mène dans le cadre des mobilités et de cette commission extra-municipale. Donc voilà, ça, tout dépend de ce qu'on va inscrire dans ce budget-là. Quand on regarde à Cray, on s'aperçoit que tous les projets, il n'y a pas de ligne directrice, même si cette année, on en ressent une. Hein, les heureux élus ont été, ce mois de janvier, labellisés. Donc, on voit qu'il y a une ligne directrice qui porte. Nous, on tient notre spécificité. Ça sera bien l'idée de vivre ensemble, les transitions, l'apport sur l'espace public. Voilà, on est vraiment sur ces valeurs-là. Voilà. Et je pense réellement que le budget participatif doit être porteur de valeurs.
D'ailleurs, dans cette proposition de participation, il est énoncé, énuméré justement les critères de recevabilité.
Tout à fait.
Donc, qui favorise l'intérêt général pour le public. Un aspect positif aussi sur les générations futures. On ne va pas dérouler toute la liste, mais j'invite les auditeurs. En tout cas, ces pages sont disponibles sur le site de la ville.
Alors, d'ici le 19, elles y seront. Là, on a travaillé encore ce matin sur la finalisation des quelques détails. Donc logiquement, c'est peut-être même en ligne, puisque à midi, tout était prêt. Donc voilà, il reste l'aspect technique de mise en ligne. Oui, ça sera bien sûr sur le site de la mairie, dans l'onglet « Participation habitante ».
Et justement, ce sont des projets qui seront quand même portés par des associations. Donc ce n'est pas un particulier qui pourrait se porter en avant. Hein.
Alors, un particulier non, mais pas une association non plus. On est sur des habitants. Les associations, si elles ont besoin de subventions pour leurs actions, elles passeront par la demande de subventions. Là, on est vraiment sur des particuliers, un groupe de particuliers. Alors, je peux vous citer quelques pistes, mais je ne voudrais pas donner des idées non plus. C'est bien aux citoyens de décider. Mais si on peut s'imaginer que dans un quartier, il y a une petite placette où on souhaite aménager un jeu de boules et que les boulistes qui jouent dans le chemin sur un terrain qui n'est pas adapté disent « Tiens, ça serait bien que vous nous fassiez un jeu de boules. » On a évalué le coût avec le petit banc, la petite table, les bordures, etc. Alors, je dis n'importe quelle somme, hein, 3 000 euros. On peut s'imaginer que ce groupe de boulistes, de sportifs, déposera un dossier, situera le lieu. On enverra donc les services techniques qui iront voir pour voir si techniquement c'est possible de niveler, de faire quelque chose à plat, etc. On vérifiera bien sûr les devis pour que ça corresponde bien au budget. Et puis ce projet, qui sera sans aucun doute retenu, sera soumis au vote. Mais c'est bien des groupes d'habitants qui proposent, en sachant que ça ne doit pas bénéficier non plus directement financièrement à ces groupes d'habitants. Voilà, c'est-à-dire que c'est vraiment un bien commun, c'est-à-dire que ce jeu de boules, par exemple, tout le monde peut l'utiliser.
Je rectifie mon propos tout à l'heure en parlant de ces associations. Effectivement, ce ne doit pas être porté par une association. Hein. J'avais mal lu la présentation.
Alors, on va s'appuyer quand même sur le centre social local, le SCDD, qui aidera les porteurs de projets à rédiger, à finaliser. Parce que rédiger un projet, alors les politiques savent bien faire, effectivement, les techniciens savent bien faire. Quand on est un habitant qui a jamais vraiment rédigé, construit un projet, c'est parfois compliqué de définir des objectifs, d'aller chercher un petit peu des éléments de budget, voire d'évaluation. Donc, il y aura des ateliers portés par le SCDD qui permettront de finaliser le projet, d'affiner un petit peu, voilà. Donc l'association ESCDD sera là en tout cas, Et par ailleurs, nous avons, dans la construction de ce projet-là, rencontré des structures, parce qu'il n'y avait pas que des associations, mais des structures locales qui ont comme leitmotiv le participatif au sein de leur fonctionnement. Donc, on a pris conseil pour éviter des écueils, pour éviter un petit peu les ratés d'une première édition. Et donc, je les remercie. Elles se reconnaîtront. Je les remercie. On a même eu des habitants qui nous avaient interpellés lors des réunions de quartier, qui nous ont dit « nous, ça nous intéresse » et qui sont venus, qui sont restés à l'écoute, qui ont suggéré et qui nous aideront certainement à évaluer et à poursuivre l'année prochaine.
Cette proposition émane aussi du désir des habitants de la ville à pouvoir avoir ces animations, une occupation de la place publique pour des événements de tous ordres.
Moi, je pense que c'est un engagement dans sa commune. C'est-à-dire que c'est un vrai choix de dire « je veux qu'il se passe plus de choses dans ma commune ». Et c'est un canal supplémentaire. On parlait des subventions pour les associations. On a parfois, nous, des demandes directes, d'aménagement. C'est quelque chose qui pourra se faire en direct. Et surtout, du moment où ça répond aux critères, c'est le vote des habitants. Il y aura un petit mois de vote. Donc, il faudra une campagne. Nous pensons utiliser, si tout se passe bien, les panneaux électoraux et nous afficherons les projets retenus. Donc, on espère qu'on touchera le plus de monde possible. Et donc, ces projets-là seront soumis au vote des habitants. Donc, quelque part, on redonne une forme de pouvoir à la démocratie directe. Et ça, c'est quelque chose quand même moi, je trouve le point fort du budget participatif, c'est que ce sont les habitants, alors aussi les amis, aussi la campagne que vont faire les porteurs de projets, mais ce sont les habitants qui, au final, décident.
On va parler un peu de ce déroulement, ce programme. Et ça commencera le 19 janvier à 19h et ça sera à la salle Baumier. Ça sera le lancement du projet participatif. Donc, le public est invité à se rendre à ce lieu.
Ah, bien sûr. Bien sûr, on présentera un petit peu ce que je viens de vous dire d'une manière un peu plus formelle. Il y aura bien sûr les versions papier du règlement et surtout les fiches projets. Que chacun pourra prendre, utiliser pour les projets à venir. On fera bien sûr des questions-réponses, parce qu'on a essayé de penser à tout, mais on n'est pas des génies, donc on aura peut-être oublié, il y aura peut-être des interrogations. Voilà, ce que je sais, c'est que j'ai reçu déjà 3 mails, parce que le bouche-à-oreille fonctionne très bien à 10 et sur le 10 voix. Donc j'ai dit, ah oui, vous avez un budget citoyen, mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça peut servir? À quoi? Etc. Donc je sais que ça va intéresser. Et donc, bien sûr, à la salle Séverine Baumier, on attendra le plus de monde possible pour répondre à toutes les questions et pour présenter le budget participatif, puisqu'il commencera dès le lendemain.
Cela revêt un aspect culturel, cette démarche. C'est à l'adresse de la culture ou alors c'est ouvert à plus de possibilités?
C'est très très large.
Vous parliez de boulistes, par exemple. Est-ce qu'il y a d'autres exemples à citer encore?
Alors, je
dans l'autre
donner...
ville, par exemple, celle qui a été prise en compte, on ne parlera pas de Carpentras parce que la circulation routière ou les voies piétonnes,
c'est, Paris, par exemple,
c'est plus de la voirie que de la culture. Non
oui, c'est des... oui, et puis les moyens communaux sont souvent limités par rapport au budget qu'on a. Donc Paris, par exemple, fait des choses magnifiques, un peu plus près de chez nous. Et j'invite aussi à aller voir le site de la ville de Grenoble qui, sur sa participation habitante, a de multiples cordes à son arc, mais à l'échelle d'une agglomération comme Grenoble. Ah oui, bien sûr, il peut y avoir de la culture. Je vais donner l'exemple de Cré, où il y a eu des fresques proposées, par exemple, sur des murs. Je sais que d'ailleurs, sur Die, il y avait eu un projet il y a quelques années, il y a 2-3 années, une suggestion, alors qui était un peu avant-gardiste, puisqu'on n'avait pas de budget participatif. Mais s'il y avait toujours d'actualité, c'est avec plaisir qu'on la recevra, parce que ça participe quand même à l'aspect historique et à l'aspect embellissement de la ville.
Alors, à partir du 19 janvier, seront possibles les retraits et dépôts des dossiers projets. Et ceci, ça peut se faire soit sur le site de la ville, le site internet de la ville, ou à l'accueil de la mairie. Et puis ensuite, les dossiers seront à retourner aux adresses indiquées. Et puis, entre le 19 janvier et le 19 février, donc, il y aura un appui à la co-construction et à la rédaction des projets. Donc, vous amenez aussi votre soutien à l'élaboration réalisation de ces projets, de ces constitutions de dossiers.
Complètement. Alors, les dossiers pourront aussi être déposés sur le site Purpose, qui est un site dédié à purpoz.com, mais ça sera aussi indiqué sur notre site et sur la fiche projet. Donc, c'est un élément qui nous a semblé intéressant, puisque c'est vraiment dédié au participatif. Alors, oui, il y aura un appui au projet. Alors, soit directement, on peut donner un coup de main, mais ce n'est pas notre rôle. Hein. Donc, vraiment, il y aura ces ateliers de construction de projet, de co-construction de projet avec l'espace social. Alors, sur une date, je vais vous dire une bêtise, parce qu'elle a été fixée ce matin et je ne l'ai pas en tête, mais sur une date qui sera bien sûr communiquée, voilà, où tous les porteurs de projets qui auront besoin de conseils, d'aide et d'appui pourront se rendre. On en a une deuxième sous le coude si vraiment le dépôt de projet explosait et qu'on avait besoin d'une deuxième date.
En quelque sorte, ceci est la première mouture, puisque ensuite, du 19 mars au 31 mars, il y aura l'instruction des projets. J'imagine que ce sont ceux qui ont reçu une certaine approbation qui seront ensuite plus finement constitués.
Oui, alors c'est le respect des critères, ce que je disais tout à l'heure. C'est aussi la faisabilité technique. Donc, c'est ces deux points que nous allons regarder. Puis, il y aura peut-être besoin de précision sur les projets. C'est entre celui qui l'écrit, celui qui le lit. Parfois, il y a un écart de compréhension. Donc, peut-être qu'on rappellera les porteurs de projets pour leur dire alors, précisez-nous, vous avez chiffré sur ce coup-là. Mais nous, quand on fait un devis, on s'aperçoit que c'est le double. Donc, est-ce que ça va si on modifie le projet et donc le budget? Voilà. On fera vraiment des allers-retours pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur ce qui sera réalisé.
Après, il y aura la campagne de vote, hein, ensuite, pour les dossiers qui auront été retenus. Comment ça va se dérouler? Est-ce qu'il existera une campagne électorale?
Bien sûr.
Et dans quelles conditions?
Alors, donc on prévoit bien sûr d'utiliser le numérique, hein, donc les projets retenus seront sur le site de Purpose, sur le site de Purpose d'ailleurs on pourra voter en ligne, ça sera à cet endroit là où on votera en ligne. Nous utiliserons les panneaux électoraux en quatre lieux différents, on va pas mettre partout, mais donc sur le centre-ville, devant la mairie, à l'entrée, aux deux entrées, pour que les gens puissent en prendre connaissance. Et nous laisserons à l'initiative et nous aiderons les porteurs de projets s'ils souhaitent aller plus loin. Nous leur donnerons un coup de main s'ils veulent, s'installer à Saint-Pierre tout un samedi journée pour présenter leur projet. Eh ben, on tâchera de leur donner quelques tables, quelques chaises, un petit barnum s'il faut, un petit barnum, et ils s'installeront et ils iront. Mais ça sera de leur responsabilité, de leur envie, de leur engagement de faire campagne.
Et puis, il y a le processus de vote qui se déroulera de mi-avril à mi-mai.
C'est ça.
Et donc, ça se fera comment, ça? Par Internet, j'imagine, en premier lieu. Mais est-ce qu'il y aura aussi un accès à une urne, par
bien
exemple
sûr, bien sûr.
Et dans ce cas-là, vous aurez certainement les informations à ce moment-là pour informer le public.
Je peux vous les donner déjà.
Oui.
Le vote en ligne se réalisera sur purpose.com. C'est vraiment le site que nous avons retenu. Alors, on peut déjà y aller. Hein, la page de DIE n'est pas ouverte, puisque le vote n'est pas ouvert. Mais on peut se rendre compte qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut faire sur d'autres actions, sur d'autres manifestations, sur d'autres budgets participatifs. C'est vraiment un site qui est dédié à ce type d'action. Quant au vote papier, il y aura une urne dans le sas de la mairie, dans l'entrée, dans le hall d'accueil de la mairie, où bien sûr on pourra prendre le bulletin de vote, noter les projets qu'on souhaite retenir et voter dans l'urne, et il faudra émarger sur une feuille où on laissera son nom, son prénom et son adresse mail pour éviter les multivotes. Mais je pense qu'on est dans un engagement citoyen, donc j'espère que chacun suivra. Alors, sur le vote, ça ne sera pas un vote à majorité. On ne va pas voter pour un projet, on doit voter pour trois projets. On mettra 3 points à celui qui nous plaît le plus, 2 points à celui qu'on trouve déjà pas mal, puis 1 point à celui qui a retenu notre attention. Donc il y aura un vote qualitatif plutôt qu'un vote sanction, c'est tout ou rien. Ben là, on pourra choisir le projet qui nous plaît le plus, il aura 3 points, puis 2 autres qui sont peut-être pas mal, qu'on aurait retenu s'il n'y avait pas eu le premier. Donc on est sur un vote majoritaire, certes, au bout du bout, mais qui recueillera quand même le plus d'intentions de vote et pas forcément que les premiers choix.
Et puis le 1er juin sera la proclamation des résultats du vote, ce sera la salle du conseil municipal.
C'est ça.
Et donc ça destinera ensuite à préparer et à mettre en œuvre ces plannings, des plannings qui permettront d'élaborer et de concrétiser ces projets. Vous vous donnez une période pour ça aussi ?
Alors, c'est un peu tôt pour le dire. Notre souhait, c'est que ça soit réalisé cette année, puisque dès octobre, on lancera le 2e budget participatif, si tout se passe bien, et si on en a les moyens, parce que le budget mairie est un peu serré d'année en année. Donc on souhaite véritablement poursuivre. Donc, nous, les projets, on espère qu'ils seront réalisés sur l'année. Alors, l'avantage de voir la faisabilité au départ, c'est qu'on les connaîtra. C'est-à-dire que nos services seront déjà au fait des projets qui pourront arriver. Imaginons qu'il y ait 20 projets qui arrivent, qu'il y en ait 3 ou 4 qui sont retenus. Ils les connaîtront déjà. Le cheminement aura été fait. Et je pense que quand on abordera la mise en œuvre, la mise en place, on pourra caler très vite ça avant les grandes vacances pour qu'il y ait des choses déjà qui se réalisent en juillet et puis que la plupart puissent démarrer en août. Alors, je vais reprendre l'exemple du jeu de boules. S'il y a un petit coup de tractopelle à faire pour aplanir et puis avoir des livraisons de gravier, de choses comme ça, qu'on sous-traitera certainement à une entreprise, on va avoir forcément les délais de travaux de l'entreprise. Donc, on sait qu'on va être un peu en difficulté temporelle, mais que ça risque de se décaler un peu. On parlait d'une fresque. Si jamais c'est sur un pignon de mur, il faudra peut-être faire une sous-couche, attendre que ça sèche, attendre que qu'on puisse s'y appliquer et interpeller l'artiste par rapport aux choix qui ont été faits pour qu'il puisse réaliser la fresque. Donc, on va être dans des délais liés aux intempéries, liés aux disponibilités de nos services et ou des prestataires. Voilà. Mais on essaiera de le faire le plus vite possible.
Et puis, sur le document, il est cité le 50-50.
Le 50-50.
50-50, oui. Alors ça, c'est une notion un peu nouvelle pour Di.
Oh, pas sûr. Pas sûr, je vous donne un exemple.
Oui.
Quand une association dit, moi, je veux faire un vide-grenier, est-ce que la mairie peut marquer au sol les emplacements, nous apporter des tables et des chaises, et nous, on organise tout le reste? On est déjà sur un 50-50. On est déjà sur cet échange-là. Sauf que c'est une association, sauf qu'on sait, les assos savent comment fonctionnent les relations avec la mairie. Alors, je vais vous donner un exemple, puisqu'on l'a eu dans une réunion de quartier. Il y a deux habitantes qui nous disent, tiens, si on pouvait fleurir quand même le talus en face de la gare, qu'est-ce que ça serait bien comme idée? Ça nous ferait un peu de lumière, un peu de couleur au début d'été. Puis c'est une entrée, ça serait plutôt que d'avoir un talus en herbe. Ça peut tout à fait rentrer dans le 50-50. Il ne va pas y avoir un gros investissement. Hein, si on s'imagine que nos services, notre service espace vert prépare le terrain, fournit par exemple quelques plants de fleurs, que les habitants les plantent, donc ça c'est leur action, et les entretiennent sur l'été, on va s'en sortir avec 50, 60, 100 euros de plants à acquérir. Le 50-50, c'est nous, on vous prépare le terrain, on vous offre les plants, vous les plantez et vous les entretenez tout l'été, pour que ces plants fleurissent et qu'ils soient jolis au plus beau. Voilà, l'idée, c'est qu'il y a des projets qui ne coûtent pas grand-chose, et je pense qu'ils seront nombreux, parce qu'on a eu déjà plusieurs retours en disant « mais nous, on n'a pas besoin de beaucoup d'argent, mais il faut que… » et on va s'engager. Voilà, c'est augmenter ce qui existe déjà un peu, cette relation à la mairie, mais avec des habitants, pas forcément avec des associations cette fois-là.
Je reviens un peu sur l'appui à la co-construction, donc avec ce soutien à la rédaction des projets. Est-ce que le public aussi, le citoyen, le lambda, peut intervenir aussi à ce moment-là ?
Bien sûr.
Et comment on s'opère est-ce qu'il y aura un lieu déterminé ? Vous parliez de l'ESCDD. Est-ce qu'il y aura une constance justement dans cette proposition ?
Alors ça se passera à la salle Baumier, cet accueil, ça permet d'être tranquille, d'être en place. Et la co-construction, ça va être vraiment adapté. On va pas faire du théorique, on n'est pas la préfecture, on n'est pas des formateurs. On va surtout répondre à la demande. On va essayer de formaliser, de faire parler. Mais pourquoi tu vas faire ce projet? Quel est ton objectif? Où est-ce que tu vas aller? Attention, tu penses à telle chose, mais il va falloir peut-être penser à la météo, à l'aspect du sol, à l'aspect du ciel. L'aspect, voilà, prendre en compte vraiment tous les éléments qui font que c'est réalisable et que sur ce projet-là, du moment où il est réalisable, ne pas rater une étape. Je le comparerais pour avoir un peu suivi à l'aide que peut recevoir un créateur de société, alors sur une autre dimension. Quand il veut monter son entreprise, il peut avoir des appuis qui lui évitent un petit peu les choses trappes. Et ben, on veut un peu le même type de démarche pour dire attention, pense bien à tout dans ton projet pour qu'il soit viable et que les lecteurs ils se disent ah bah oui, là ça fonctionne bien, ah bah oui, ça va être intéressant, on va pouvoir, voilà, qu'il y ait une compréhension accrue parce que le projet est fluide. Voilà, c'est et je pense que là l'espace social joue tout son rôle.
Par rapport à ce lancement du budget, vous énoncerez toutes les possibilités de soutien pour ces constitutions de projet. Donc ça aura lieu le 19 janvier. Hein,
complètement.
À la salle Baumier.
Séverine Baumier, historienne. Bon, la suite, nous demanderons. Ce n'est pas une obligation, mais nous souhaitons que les projets qui sont retenus cette année, donc les initiateurs de ces projets, puissent être le groupe de lecture et de choix de l'année prochaine. Ils seront passés par toutes les étapes, ils connaîtront les difficultés, ils sauront un petit peu quels sont les axes qu'on veut travailler et on veut les associer. Cette année, le choix va se faire entre élus et services techniques. Hein. C'est l'année prochaine, on souhaiterait qu'il y ait bien sûr les services techniques sur l'aspect pratique, les élus sur l'aspect respect des critères, mais qu'on ait aussi cette vision de ce que j'appelle moi la société civile qui dit « Attendez, là, vous refusez, mais quand même, quand ils vont faire ça, ça, ça va aller peut-être sur telle chose, et ça va atteindre nos objectifs. » Et on compte sur eux, voilà, pour nous aider petit à petit à avoir un tamis hein, de choix des projets qui soit aussi issu de cette société civile. C'est dans une logique participative. On continue et on tâchera d'aller le plus loin possible dans cette démarche.
Pour tout renseignement, j'invite les auditeurs à se rendre sur le site de la mairie de la ville de Die. Ça sera à partir du 19 janvier hein, que ça sera consultable.
19 janvier, on peut récupérer le dossier, vierge, en ligne et à La Réunion. Et on peut le déposer déjà, on a le temps, hein, on a un mois pour le déposer, donc on est tranquille. Et le 19 janvier, c'est surtout toutes les informations de visu à l'oral, donc c'est pratique puisqu'on a vraiment des interlocuteurs en face de soi.
Est-ce qu'il y a d'autres actualités à
là,
venir?
Il y en a plein.
On pourra faire un petit parcours rapide.
Oh là, là, tout de suite là.
Non, pas forcément.
Si. Alors, on va beaucoup. Alors, je vais vous le faire plutôt sur l'année plutôt que sur le mois de janvier, parce qu'il y a tellement de choses. Sur l'année, en tout cas sur ce début d'année, c'est les mobilités qui tiennent la corde. On va sortir d'ici mai, juin, le schéma des mobilités sur le Diwa. Alors, c'est mes collègues François Stesseron, qui est en charge des mobilités, Jean-Pierre Bertrand, qui est en charge de la voirie, qui ont travaillé sur ce projet. C'est quelque chose, c'est vraiment un axe fédérateur. Ensuite, on va le décliner en actions spécifiques. Donc cette année, on va tout de suite avancer autour de l'école Chabestan, où la sécurité des enfants est en jeu. Il y a vraiment quelque chose qui est dans les tuyaux, qui va démarrer. Léger et adaptable, c'est-à-dire qu'il évoluera en fonction de l'utilisation. Il va y avoir certainement l'étude sur la route de Poney, où l'on souhaite, nous, si c'est possible techniquement, j'insiste, hein, parce que il y a les souhaits, puis il y a les difficultés techniques, mais si c'est possible d'avoir un cheminement partagé piéton et cycliste à part de la route, donc ça, c'est notre souhait. Donc on va travailler sur une étude, on la présentera aux habitants cette année. Donc voilà, et puis sur la deuxième partie de l'année, si tout va bien, donc ça reste vraiment au conditionnel, on devrait, conditionnel j'insiste, avancer sur l'avenue du Vercors et peut-être revenir sur l'avenue de la division Texas. Hein. Nous avions sondé, nous avions attendu un petit peu parce que le budget faisait qu'il fallait y réfléchir. Et puis il y avait un projet, un avant-projet très sommaire de la municipalité précédente qui ne nous convenait pas, puisque là aussi, on souhaite donner une place au mode doux. J'insiste, c'est donner une place. Hein, ce n'est pas 100% mode doux. Je vois beaucoup passer des choses sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas tout mode doux. C'est bien sûr laisser une place sécurisée pour que ceux qui sont en vélo, ceux qui sont à pied, soient en sécurité quand ils rejoignent le centre-ville. C'est vraiment cette démarche qu'on souhaite. Donc voilà, sur les mobilités, c'est vraiment cette première partie. Voilà. Puis il y a d'autres choses. Alors sur l'accessibilité, ça, c'est moi qui m'en occupe, donc je peux vous dire qu'on va, on va travailler. Et il faut là aussi que ça devienne un leitmotiv du moindre chantier. Se dire que nous ne sommes pas tous très valides. Nous allons tous vieillir et qu'à un moment donné, des escaliers pentus, des accès qui ne peuvent pas se faire en fauteuil pour les personnes porteuses de handicap, c'est un problème majeur. C'est un problème majeur, j'insiste. Donc, ça a commencé, on a commencé, alors interrompu malheureusement par la météo, à Saint-Pierre, où on commence à mettre des bandes pododactyles devant les passages piétons pour que les non-voyants, les malvoyants sachent qu'ils sont en face d'un passage piéton. Et le projet de l'année, c'est de référencer et de retracer, pour celles qui ont un peu disparu, toutes les places PMR, personnes à mobilité réduite. Et d'essayer de faire des cheminements qui aillent de l'une à l'autre, qui permettent, pour les personnes qui ont des difficultés de déplacement, eh ben, d'avoir ces cheminements. Ça aboutirait à une carte qui serait diffusée, qui serait à l'office de tourisme. Comme ça, on sait où on peut se garer et on sait comment on peut cheminer pour visiter notre ville en tant que personne porteuse de handicap. C'est quelque chose qui est aussi très important.
Dominique Joubert, merci d'être venu sur Heure d'Ivoire pour nous annoncer ce budget participatif citoyen qui aura lieu à partir du 19 janvier.
C'est parfait. À bientôt.
Pareil. Bonne soirée.
Merci.
Au revoir.